Parole d'auteur. Une émission de Monique Fauché.
Dans ce livre, des hommes nous parlent de leur vie, de leurs souvenirs et de ceux de leurs ancêtres. C'est une vaste fresque qui traverse le temps, fait de guerre et de paix, qui traverse les terres, les leurs et celles d'ailleurs. Mémoire des familles, mémoire de la France et de ce que furent ces colonies. Il serait étonnant que le lecteur ne se retrouve pas dans cette histoire humaine et ne se retrouve pas aussi dans la grande histoire, celle qu'il a vécue ou apprise dans les livres ou par la famille. Pourquoi reste-t-on accroché si fortement à cet ouvrage de 649 pages? Parce que tout simplement, il nous parle de l'homme et de sa continuité. Il nous fait toucher du doigt notre appartenance à cette chaîne humaine, ce que nous devons à nos ancêtres et ce que nous transmettons, le meilleur comme le pire. Les jours, titre de ce roman, hors du commun, est édité chez Gallimard et j'ai le très grand plaisir de recevoir son auteur, Sylvain Houillon. Sylvain Houillon, bonjour.
Bonjour Monique Fauché.
Alors justement, je me disais, mais qu'est-ce qui pousse un océanographe, directeur de recherche à l'Institut de recherche pour le développement et au laboratoire d'études de géophysique et océanographie, je ne sais pas si j'ai tout dit correctement, mais enfin, à se pencher sur autre chose que sur le transport des sédiments, les panaches fluviaux ou le pompage tidal? Les mots m'ont plu, hein.
Ah oui, en fait, ce sujet-là, le sujet que je traite dans ce roman, remonte des profondeurs, en fait, hein, de l'enfance, ça jaillit. C'est resté en moi pendant 30 ans avant que j'arrive à le terminer sous la forme d'un roman. Oui. C'est en fait partie de la magie des histoires d'enfance, les histoires qui ont bercé mon enfance. Pas seulement parce qu'il y avait des chercheurs d'or, il y avait des traversées en paquebot, il y avait des empoisonnements, des espions. Bon, il y avait ce côté-là amusant, disons, de l'histoire. Mais en fait, les personnages, c'était mes grands-parents qui me racontaient leurs histoires d'une vie coloniale passée, etc. En fait, ces personnages aussi m'interrogeaient, me posaient des questions sur le monde, sur l'évolution d'une société. Je sentais bien, étant jeune dans les années 70, que le monde n'arrêtait pas de bouger. Enfin, je le sentais un petit peu, mais justement, cette génération-là a vécu des tels bouleversements depuis le début du XXe siècle que, voilà, je suis parti de ces questions-là et j'en suis pas sorti pendant longtemps.
Oui, alors il y a quelque chose qui m'intéresse. Vous dites que vos grands-parents vous racontaient, d'où la magie du récit, le fait de raconter. On le fait peut-être pas assez. Vous aviez quel âge quand ils racontaient ça et que vous écoutiez?
Alors, j'étais enfant, hein, jusqu'à... En fait, souvent, mes grands-parents m'ont gardé quand j'étais à l'école maternelle, à l'école primaire. Dès que j'étais malade, j'essayais d'être souvent malade pour pouvoir bénéficier.
Oui, écoutez, voilà. Vous avez bien fait.
Et j'ai quitté Paris à l'âge de 20 ans pour venir à Toulouse, justement, ouais, faire mes études. Mais donc, jusqu'à l'âge de 20 ans, j'allais assez régulièrement les écouter.
D'accord. Alors, on hésite à donner le nom de roman à votre ouvrage parce qu'il a de multiples formes. Et c'est ce qui en fait également l'attrait. On va énumérer tous les attraits, mais celui-là, de multiples formes, ce n'est pas qu'un roman.
Non.
Il y a beaucoup d'autres choses.
Alors, c'est vrai que moi, je tenais absolument à ce qu'on entende les voix des personnages. Les voix singulières de Simone et Lucien, et puis de leurs frères et sœurs. Bon, alors... Je suis parti d'un matériau de base qui était quelques cassettes, quelques enregistrements. J'avais enregistré mes grands-parents, effectivement.
Vous avez eu l'idée d'enregistrer, ça.
Oui,
c'est
voilà,
une excellente idée.
Et vers 15, 16, 17 ans, j'ai enregistré quelques cassettes. Et puis, ces cassettes sont restées dans une boîte en fer pendant 20 ans. Et je les ai ressorties, réécoutées, retranscrites. Et puis, je suis parti de là. Bon, certains témoignages dans le romans ne sont pas...
Mais il y a des bases.
Il y a des bases, et des bases aussi au niveau des mots, parce qu'il y a certains mots qu'on n'emploie plus et que j'aimais retrouver. Voilà, et c'est pour ça que j'ai tenu à ce qu'il y ait une partie témoignage à côté d'une narration, Et puis, puisqu'on suit cette famille à travers la fin du 19e et le 20e siècle, j'ai placé des bornes historiques. L'histoire, c'est un peu comme un décor, en fait.
Oui, tout à fait. Les personnages ne sont ni des héros, ni des voyous, mais ce sont des gens simples, vraiment, et qui essaient de vivre leur vie très honnêtement, tout simplement.
Oui.
On parlera de ce désir d'ailleurs de certains, hein, mais c'est ce qui est intéressant justement. Parce que moi, en vous lisant, je me suis dit, tiens, mais quand même, il y a eu des sagas familiales. Ben, il y a les Rougon-Macquart. Et c'est intéressant d'ailleurs parce que qui eux personnifient l'Empire, et je me suis dit, mais dans le fond, les familles Devoise et Sevrin personnifient la France à un moment donné, à travers toutes les annotations que vous avez données, les informations, parce que vous les resituez dans l'histoire, on se dit, mais dans le fond, c'était ça, et la France coloniale aussi.
Alors en fait, c'est vrai que les deux protagonistes principaux, Simone et Lucien, se rencontrent sur un bateau en 1927 en allant rejoindre les colonies. J'aurais pu commencer là, mon texte.
Mais vous avez commencé
mais
bien avant.
En fait, j'ai voulu comprendre comment ils étaient arrivés sur ce bateau, pourquoi des gens issus de familles qui vivaient dans les campagnes françaises, pour Lucien en Creuse, pour Simone dans les Vosges, comment ces gens-là qui travaillaient la terre ou qui travaillaient le bois s'étaient retrouvés à partir dans les colonies. Et voilà, je suis...
Ça commence en 1830, hein, à peu près.
Oui, en fait, plutôt 1850, enfin 1830-1850.
Voilà, il y a René Devoise, j'avais noté, et Annette Vacher, qui se rencontrent dans un village de la Creuse, c'est ça?
Voilà, c'est ça. En fait, vraiment le point de départ, le premier chapitre, c'est plutôt la guerre de Crimée, donc les années 1854-55, quand René Devoise, donc le grand-père de Lucien, est amené à quitter la Creuse, à partir pour l'armée, pour participer à cette guerre de Crimée. Ça va être un point de départ, je pense. Le départ de son village de Creuse. Et à partir de là, il va pouvoir imaginer possible d'aller chercher du travail à Paris. Et voilà, c'est le départ d'une...
On parlera de ces gens qui partent, des différentes motivations. Mais justement, vous parlez de la guerre de Crimée, vous parlez des deux guerres également. Et on se dit, mais dans le fond, c'est là où se révèlent les hommes. Mais là, la guerre de 14-18, vous en parlez, et c'est vrai que c'est évocateur pour ceux qui ont connu leurs grands-parents, les bombardements, le froid, les restrictions, les séquelles, les veuves, les gueules cassées, les gazés. Et on se dit, mais il a raison d'en parler à cette échelle-là. Qui en parlera ?
Oui, dans les années 70, quand j'étais enfant, quoi, quand j'avais une dizaine d'années, j'étais toujours impressionné dans le village de mon père en Haute-Loire de voir ces veuves de guerre, les veuves de 14 qui étaient
encore habillées de noir.
Tout habillées de noir, ouais. 60 ans après l'armistice. Et je me disais, mais enfin, comment c'est possible? Et surtout, cette guerre de 14 était sensible, là. Elle était présente, elle était vivante encore pour moi.
Oui, exactement.
Et alors que maintenant, voilà, je pense que plus le temps passe, il y a déjà plusieurs années qu'il n'y a plus de poilus vivants, etc. Et en fait, l'histoire vivante, elle reste vivante tant qu'on a un témoin, tant qu'on a des traces, et ensuite ça devient de l'histoire.
Exactement. Exactement. Tandis que là, c'est une histoire vivante, hein, que vous nous communiquez.
C'est la mémoire, en fait. Voilà. La différence entre la mémoire et l'histoire, pour moi, c'est que la mémoire retrace du sensible. Et ça passe par l'intermédiaire d'une famille. Et les souvenirs les plus anciens de la famille, c'était mon grand-père qui me parlait de son propre grand-père.
Voilà.
Et
c'est
là que j'ai voulu démarrer mon texte.
Alors, évidemment, vous parlez, on passe très vite parce qu'il y a 1920, une époque de transition. Il y a justement, j'ai trouvé ça très, très intéressant, la manière dont vous en parlez, parce que vous montrez parallèlement aussi sur le plan historique, mais également sur le plan culturel, tout ce qui se passe, les changements. Ce qu'il y a de bien, c'est que... Il y a en alternance des chapitres que vous intitulez « Bornes ».
Oui.
Alors ça, c'est vraiment, ce sont des bornes pour nous, effectivement.
Voilà, ce sont des bornes historiques. Au départ, il y en avait moins dans le texte, une première version. Mais c'était indispensable pour moi, pour que je puisse m'y retrouver, essentiellement pendant la Deuxième Guerre mondiale, parce que donc la famille de Voise-Sevrin est répartie entre la métropole et les territoires d'outre-mer, les colonies de l'époque. Et en fait, on a une temporalité de la guerre qui est différente. Simone et Lucien, qui ont passé l'année 1940 et 1941 en métropole, sont repartis à Madagascar. En 1942, les Anglais, enfin les Britanniques arrivent à Madagascar, et à ce moment-là s'enclenche une nouvelle phase de la guerre pour eux, où déjà la France libre est installée, et alors que en fait ils ont 2 ans d'avance sur la métropole. Et donc les bornes historiques, j'ai voulu les placer pour qu'on situe bien la temporalité de l'histoire de la famille par rapport à l'histoire collective.
Oui. Alors, l'histoire collective, parce que c'est l'histoire elle-même, mais aussi des faits comme l'enlèvement du fils de l'aviateur de Lindbergh, le puritanisme hollywoodien, ça c'est en 1934. Il y a des tas de choses, des petites informations qui, dans le fond, font partie de notre histoire. Alors, il n'y a pas que l'histoire, il y a aussi des infos sur d'autres thèmes comme la nature, la faune, la flore, sur le climat, constats et prévisions. Ça aussi, c'est intéressant, et je trouve que c'est également intéressant pour les jeunes. Il y a des choses, parce que vous rendez accessibles certaines notions.
Alors, en fait, mon projet, mais c'est un petit peu ambitieux peut-être, c'était d'essayer de capter l'air du temps à chaque période. C'est pour ça que le livre est chronologique. Et il me semble que des marqueurs comme les œuvres d'art, les films, les chansons aussi, les chansons marquent une époque.
Ah oui,
et donc, c'est pour ça que dans les bornes, je ne me suis pas contenté de parler de faits politiques ou de... d'incorporer la culture populaire et puis aussi les changements de mentalité. Par exemple, dans les années 50, ce qui est flagrant, c'est l'émergence d'une culture jeune, hein, le rock, James Dean, les jeunes qui veulent apprendre des choses à leurs parents, enfin, quelque chose de complètement nouveau. Voilà, on retrouve dans les bornes des traces.
Et le narrateur, c'est-à-dire vous, intervenez aussi. Le changement climatique se réglera à coups de migration, fût-elle titanesque, mais comment gérera-t-on la raréfaction des ressources naturelles, végétales, animales, énergétiques, minérales, sans oublier l'eau? Et là, on voit que vous êtes spécialiste en la matière.
En fait, ce sont des questions. Voilà, des questions.
Oui, oui.
Je crois que le métier de chercheur, c'est, il me semble qu'on tourne autour de questions, et pour un élément de réponse, on arrive à 20 nouvelles questions. J'ai un petit peu parsemé mon texte de quelques questions. J'espère ne pas en avoir mis trop, mais c'est pour partager des interrogations, simplement.
Oui, oui, oui. De même que vous parlez de la génétique, ça m'a fait sourire parce que Michel Serre, qui est plusieurs fois venu à votre place, parlait justement de tous cousins. Vous dites à un moment donné, nous sommes tous cousins. Et il disait que dans le fond, c'était les plus futés qui étaient partis. Aller voir ailleurs. Et ils étaient partis de cette fameuse l'Est de l'Afrique. Hein, dans l'Est de l'Afrique, à l'époque, on pensait... Je ne sais pas si on en est toujours là, d'ailleurs. Il me semble qu'il y a eu de nouvelles découvertes.
Si, oui, on découvre encore des nouvelles... On a découvert... Mais je ne me rappelle plus le nom, pardon. On découvre toujours des nouvelles branches, en fait,
parce que Lucie,
qui ont quitté l'Afrique.
On en était à Lucie, mais il y a peut-être quelqu'un d'autre maintenant, je ne sais pas. J'en sais rien. Alors, c'est vrai aussi que toute la période dont vous parlez, et on va parler des personnes aussi, hein, c'est aussi une période qui, en dehors des guerres, a connu de grands changements. Des inventions dans le transport, la santé, la société, dans le mode de vie, dans la culture. C'est vrai que moi, je me souviens que que ma grand-mère qui me parlait de sa vie, certainement avec beaucoup moins de précision que vos grands-parents, et elle était plus âgée que vos grands-parents, mais je me rends compte qu'elle vivait vraiment. Pour moi, c'était, quand j'étais jeune, c'était l'époque préhistorique. Il y a eu tellement de découvertes, et ça, vous en parlez aussi.
Oui, parce que les technologies, les découvertes technologiques marquent nos vies quotidiennes. Et moi, ce qui me frappait chez mes grands-parents à la fin, c'est que une espèce de... Ils bifurquaient, ils n'avaient pas le même rythme. Il y en a une, ma grand-mère, qui suivait tout à fait les nouveautés, qui cherchait toujours à se tenir au courant du dernier gadget électroménager qui allait sortir. Et je me rappelle, dans les années 70, elle s'était acheté un four micro-ondes. C'était un monument qui faisait un bruit pas possible. Alors que mon grand-père, lui, refusait toute cette nouveauté. Il voulait pas de téléphone, pas de télé... pour lui, tout ça, c'était inutile. Et en fait, je me suis demandé aussi à partir de quel moment on devient vieux, par exemple. Est-ce que c'est pas quand on refuse, quand on refuse son époque, ou alors
faut des deux. Non.
Peut-être qu'il faut des deux, mais dans un couple, ça introduit des rythmes différents.
Mmh,
et voilà, donc ça m'interrogeait, en fait.
Oui,
voilà.
oui. Alors, il y a de l'humour aussi, il y a bien des moments dans votre ouvrage. Par exemple, à un moment donné, il y a une expression qui m'a plu, le bruissement des vestes qui se retournent à Madagascar.
Ah,
ça, c'est un changement politique,
voilà.
Et on imagine très bien les vestes qui se retournent. Ou alors, vous parlez à un moment donné... la Russie, à l'époque du tsar, c'est l'exploitation de l'homme par l'homme. Et depuis la révolution d'octobre, c'est le contraire. Voilà, ben on le sait. Voilà. Alors, deux familles, plusieurs générations. Alors, je me suis dit, mais dans le fond, chaque famille est un roman. Vous allez peut-être créer l'envie, non pas d'écrire un roman, on n'est pas tous capables de faire le travail que vous avez fait, mais de raconter, parce que c'est vrai que nos parents, nos grands-parents ont vécu des choses et qui valent peut-être le coup d'être écrits. Alors, vous parlez des ententes, des brouilles, des réputations, et dès le départ, alors je le dis à nos lecteurs, il y a un arbre généalogique. Alors, cet arbre généalogique, je dois dire que je l'ai complété parfois.
Ah oui.
Il y avait des personnes que je n'ai pas vues. Vous en êtes rendu compte, ou c'était voulu peut-être?
Si, je m'en suis rendu compte, mais j'ai eu peur en fait d'effrayer le lecteur. En même temps, je pense que c'est un moyen de s'y retrouver au début du texte. Et je suis pas persuadé que vers la fin on ait besoin de se raccrocher,
non.
Parce qu'en fait on suit des personnages à travers les époques traversées, et je ne suis pas sûr finalement que cet arbre généalogique soit si important que ça.
Et moi, j'ai bien aimé pourtant, je vais vous dire, me revenir régulièrement, voyons quel est le lien entre ces personnes-là. Alors, évidemment, on voit la société à travers ces deux familles qui racontent. Et alors, ce qui est agréable, c'est que souvent, il y a des dialogues, et puis il y a des commentaires du narrateur, ou bien il y a quelqu'un qui parle, et après... on précise, c'est quelqu'un d'autre. C'est ça, c'est très changeant, et on parlera des genres que vous avez utilisés, des formes littéraires, parce que ça garde toujours l'attention en éveil. Alors, c'est voulu, évidemment. Ouais, je vous demanderai, évidemment, comment vous avez procédé, parce qu'il y a un tel nombre de styles différents qui correspondent vraiment à des choses précises. C'est nécessaire, c'est bien, ça, c'est bienvenu, mais quel travail ! Vous avez mis beaucoup de temps, oui.
Eh ben, oui, j'ai mis 10 ans pour écrire ce texte. En fait, il a fallu que je me mette en condition, c'est-à-dire que je suive un peu les traces de mes personnages. Et c'est là où je vais peut-être reprendre une question que vous m'avez posée au départ. Est-ce que il s'agit bien d'un roman ? Pour nourrir mes personnages, en particulier pour parler de ceux que j'avais pas connus. Et en fait, moi, je suis né en 66. exercice. Donc en fait, par rapport aux 640 pages, les 550 premières pages correspondent à une époque que je n'ai pas connue et à des personnages que je n'ai pas connus non plus. Donc pour nourrir cette histoire, il a fallu moi-même que je parte vivre 11 ans dans les pays tropicaux, que je vive un certain nombre de choses.
On peut en parler de cette expérience, oui, parce qu'elle enrichit votre ouvrage aussi.
Voilà. Mais du coup, si vous voulez, les personnages qui apparaissent dans le texte ne sont pas forcément les personnes réelles.
Mm-hmm.
Celui que je fais passer pour mon grand-père, parfois c'est moi aussi.
D'accord. Oui. Donc, voilà. C'est un roman.
C'est un roman. Mmh.
Voilà. Alors, dans ce roman, justement, il y a... il y a une partie, il y a la petite histoire, celle de la famille, qui s'inscrit chaque fois dans la grande histoire, avec plus ou moins de difficultés, de facilités. C'est vraiment une saga familiale qui s'articule. Alors moi, vous n'allez peut-être pas être d'accord, mais pour moi, le couple central, ça a été Simone et Lucien.
Oui. J'ai entendu des lecteurs me dire que une personne centrale était Marie aussi, la mère de Lucien, qui menait sa famille.
Tambour battant.
Tambour battant. Alors là, qui était un personnage et vraiment vraiment très marquant que j'ai connu un peu. Et en fait, les familles, c'est un petit peu comme un système solaire, c'est-à-dire que il y a des planètes qui tournent autour d'un soleil. Alors parfois, il y a deux soleils, et la vie s'organise autour de ça, avec une culture familiale, c'est-à-dire avec des rites, avec des interprétations, des croyances, des habitudes, et voilà. Je pense qu'on retrouve ça à plusieurs niveaux, au niveau de Simone, Lucien et leurs enfants, mais aussi au niveau de leurs propres parents.
Ah oui, parce que vous parlez de Marie. D'ailleurs, les personnages féminins ont une consistance.
Tout à fait.
Vraiment. Merci. C'était hier, là, la journée des femmes, de la femme. Mais il y en a une qui est terrible. C'est la Marguerite, la mère de Marie, justement.
Ah, oui.
L'arrière-grand-mère. Mmh. Donc, apparemment, c'était la terreur personnifiée. Oui.
Voilà.
Alors, voilà. Alors, bon, à un moment donné, vous parlez de rencontres. Mais alors, ce qu'il y a, c'est que c'est parsemé de récits. Par exemple, j'aimerais bien que vous me lisiez ce passage qui parle des congés payés et du travail de téléphoniste. Parce que le travail de téléphoniste, ça n'existe plus.
Non.
Les congés payés, ben, ça paraît tellement normal.
Mmh.
Et en définitive, les auditeurs entendront aussi, parce que j'ai parlé de changement de langage, de niveau de langage différent. Là, ça peut être un langage très simple, parfois presque familier, et ça peut changer aussi. Alors ça, c'est à la page 312. Vous acceptez de le lire ?
Tout à fait.
D'accord.
Alors, il s'agit, pour situer, donc d'un dialogue entre Michel et René. René, qui est la sœur de Lucien, et qui est son aîné d'un an. René est né en 1904. Et voilà Michel et René qui parlent de leur rencontre. Alors Michel, c'était l'été 36, les premiers congés payés, le Front populaire. En 34, ça avait commencé, les gens commençaient à arriver. René, oui, mais il n'y avait pas une foule bien dense. Les congés payés n'étaient pas encore pour tout le monde. Les gens hésitaient. Mais c'était bien. Royan, l'été, c'est moi qui l'ai choisi. Dans les PTT, comme dans toutes les administrations, il y avait la brigade roulante. Mais moi, j'ai demandé à partir sans indemnité. Ils m'ont accepté pour 3 mois, pour la saison, et j'ai choisi mon endroit. Michel. Et elle m'a choisi en même temps. On était dans l'ancienne poste, sur le front de mer. C'était poussiéreux, n'empêche que l'été, il y avait 20 téléphonistes là-dedans. Il y avait du travail, hein, et les gens n'avaient pas le téléphone comme maintenant. À ce moment-là, il y avait les petites demoiselles du téléphone. C'était manuel, le téléphone. René. Oui, un métier qui a disparu. Moi, j'étais pas prédestiné pour ça, mais enfin, quand tu passes un concours, tu demandes rien. À ce moment-là, dans les concours de fonctionnaires, sur 100, il y en avait 90 qui étaient nommés à Paris. Je revois toutes mes collègues qui disaient « Oh, je voudrais retourner à Montauban, je voudrais retourner à Brive, je voudrais retourner à... » Elles ne pouvaient pas. Tout le monde voulait retourner dans son pays et tout le monde restait à Paris. Ils y retournaient pour la retraite. Au téléphone, j'étais contente. Je faisais la brigade. Un jour, 7h midi. Le lendemain, midi, 19h. Ou midi, 21h. C'est long, hein? Mais t'avais du temps à toi. Enfin, on turbine, hein, c'était dur, c'était très dur, t'as pas une minute pour souffler, la vie se déroule comme ça et ça va vite, tu sais, tu verras si tu vieillis. Ça va vite, on peut pas s'imaginer ce que ça défile. Heureux ou malheureux, le temps passe la même chose. Il y a plein de métiers qui ont disparu, c'est ça le progrès, la machine, allez hop, 100 personnes à la fois. Note qu'il y a des choses où ça aide bien, parce que dans les fermes, dans le temps, on faisait tout à la main. Comme dans tout, il y a le pour et le contre.
Merci Sylvain Houillon. Nous allons écouter un extrait de Summertime de Gershwin que vous avez mentionné dans votre ouvrage. C'était Entre les deux guerres, une très belle musique.
Parole d'auteur, Monique Fauché.
Voilà, nous retrouvons Sylvain Houillon pour un livre, je dirais un ovni, parce que finalement, j'ai cherché, je n'ai pas rencontré, ça fait quand même quelques lunes que je reçois des auteurs, je ne connais pas d'autres ouvrages semblables. Construit, parce que tout à l'heure, j'ai parlé des Rougon-Macquart. Rien que ça, je vous compare à Zola, hein. Mais Zola n'a pas fait la moitié. Il a pas. En fait, c'était vraiment le roman, bon, avec un genre très particulier. Non. Alors, il s'agit donc pour nos éditeurs, il s'agit de ce livre intitulé Les Jours, édité chez Gallimard pour un premier livre. Félicitations, hein, la Blanche.
J'ai eu beaucoup de chance.
La collection Blanche. Non, non, là, non. Voilà. Et c'est Sylvain Houillon qui est à notre micro. Alors, nous parlons de ces familles. Ce qu'il y a, justement, c'est que tous les événements sont vécus à l'échelle humaine et parfois, on a l'impression, à l'échelle d'enfants même.
À l'échelle d'enfants, oui, parce que, en fait, Moi, j'ai voulu retransmettre un petit peu, enfin retranscrire la magie que je ressentais à écouter ces histoires.
Mmh,
et c'était l'oreille de l'enfant. Donc, certainement, il reste une candeur, une, je sais pas, une naïveté peut-être. Mais voilà, un peu l'émerveillement de l'enfant. Je pense qu'il y avait un côté.
Tout est neuf.
Oui. Oui, tout à fait.
Oui, oui. Alors oui, on a parlé des personnages, de personnages vraiment forts. Marguerite, cette maîtresse-femme qui jouait aux courses et qui faisait peur à tout le monde, apparemment. Marie et Augustin, si peu assortis, hein, apparemment, d'après ce que j'ai compris. Mais en même
et
temps...
Et qui pourtant s'entendaient bien, malgré leur différence de caractère. Je dis quelque part que pour qu'un couple dure, il faut qu'il y en ait un qui soit taillé dans l'ombre de l'autre. Il me semble que c'était un petit peu ça.
C'était elle qui était la femme.
Marie était exubérante et Augustin était...
Et lui, parfois un peu gêné par ses propos, hein, d'après ce que j'ai compris.
Oui.
Voilà. Non, mais ils sont très vivants, ces personnages. On ne peut pas trop détailler, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Eugénie, qui poursuit l'exploitation due au décès de son mari, qui est courageuse. Il y a eu ça... On va en parler de tout ce qui se passe à l'étranger. Bon, il y a les événements de 1900, et Dieu sait qu'il y en a eu. Voilà. En général, donc, ils exercent des métiers modestes. Et ce que je trouve, ce en quoi réside l'intérêt de votre ouvrage ? Parce que souvent, bon, ce sont des milieux aisés, des milieux bourgeois qui sont décrits. Là, non, ce sont des gens, ben justement, une postière Il y a un postier d'ailleurs aussi. Et c'est dans la vie quotidienne, celle que nous connaissons tous finalement. Alors, les plus hardis commencent à sortir de leur village, de leur ville, de leur pays. Et avec eux, donc, nous partons en Afrique. Alors, ça va être au Tchad, au Maroc, à Madagascar.
Mmh.
Voilà. Alors, Madagascar, vraiment, là aussi, ça réveille des souvenirs parce qu'on sait que ça a été, du temps de la colonie la plus riche.
Mmh.
Vraiment, dans les...
Au niveau des ressources naturelles, Madagascar est toujours... Toujours un pays, c'est même un continent plus qu'un pays, avec des climats très différents, avec des ressources naturelles formidables, du sous-sol comme de la végétation au niveau des bois.
Mais très abîmé quand même, non ?
Alors, très abîmé, oui, maintenant, il y a eu beaucoup de déforestation et puis une surexploitation, certainement. Enfin, mais là, je commente pas vraiment cet aspect-là,
oui,
parce que là, ça sortirait du roman.
Oui.
Mais par contre, je m'interroge sur cet aspect-là. Comment cette région si riche naturellement se retrouve avec une population maintenant si pauvre ?
Si pauvre, terriblement pauvre. Alors, certains disent que ceux qui partent sont des aventuriers, des chercheurs ou des ratés. Alors là, il y en a plusieurs qui partent, on ne va pas faire le tri, mais justement, on se dit quand même qu'à cette époque-là, quand on prenait un avion alors que les deux précédents s'étaient cassés la pipe, il fallait être courageux.
Ah oui, là vous faites allusion au premier vol de la famille, donc c'est Simone en 1946, juste après-guerre, qui décide de faire le trajet pour la première fois en avion. Auparavant, la famille de Voise donc, partait de France pour rejoindre Madagascar en paquebot, et en 1946, il restait en fait ces avions de guerre, des avions qui avaient transporté les parachutistes, qui étaient utilisés pour la première fois pour des vols commerciaux. Et donc, sur Madagascar, il y avait trois Dakota, donc des avions de parachutistes qui étaient disponibles pour ces vols commerciaux. Le premier se crash, le deuxième disparaît en mer. Et Simone, qui était sur la liste d'attente, se voit propulsée en tête, et elle a quand même pris le vol avec ses deux filles.
Courageuse,
voilà.
Courageuse.
Et donc, le vol a duré 6 jours, on raconte. Enfin, le détail, parce que les avions ne pouvaient pas voler la nuit, etc. C'est un épisode assez romanesque.
Oui. Partir offre cette opportunité formidable de savoir à quoi l'on tient. On trie, c'est fou ce qu'on accumule. Alors on hésite, on donne, on distribue, on met de côté, on jette. Partir donne cette possibilité de trier l'essentiel et en définitive de se connaître un peu mieux. Il faut partir pour se rendre compte de l'immense territoire de l'inutile. Le peu qu'il reste, c'est notre trésor, c'est nous. Notre vie est là, avec aussi nos souvenirs, qui ne demandent même pas une malle, même pas une enveloppe. Tout est là et on l'emporte avec soi, en route pour une nouvelle étape. Combien d'étapes nous reste-t-il encore ? Nous avançons avec l'espoir. Il y a des, comme ça, des passages qui aussi qui accrochent. Et puis, il y a de belles descriptions. Alors là, par exemple, Majunga. Alors, où est Majunga ? Je ne me souviens plus.
Majunga, c'est à Madagascar, sur la côte ouest. Donc, c'est une côte très sèche. Il y fait une chaleur folle. En dehors de la saison des pluies, c'est une région qui est saturée de poussière aussi. Et alors, ce qui est formidable à Majunga, c'est que c'est une zone métissée avec où se rencontrent en fait des boutres, des Comores, des Africains, des Malgaches, des musulmans de différentes origines. Et tout ça, ouais. Tout ça se retrouve autour d'un port.
Actuellement, vous pensez ?
Actuellement, moi je suis allé à Majunga en 1995 et ça m'a donné cette impression. Alors je ne peux pas dire ce qu'il en est en 2020, sûr. Mais...
Oui. Alors Majunga, oui, y a tout au cours de votre ouvrage, il y a de belles descriptions. Par exemple, là donc vous parlez de Majunga, sur la côte sous le vent, la chaleur est sèche. Et un peu plus loin, vous dites « Le climat impose la lenteur, le rythme est tropical, sec, l'ambiance orientale et africaine, la sieste incontournable, avec le tracé des avenues, les églises, la promenade du front de mer, l'architecture des bâtiments administratifs, la France coloniale a posé sa patte. Les métropolitains ne sont pourtant pas nombreux, un médecin, deux douaniers, un postier, des contrôleurs, quelques gendarmes, pas grand monde. » Oui, déjà, on y est. Voilà, alors... vous montrez, je pense que le fait d'avoir beaucoup voyagé vous-même vous a beaucoup aidé peut-être à prendre la température, le climat du pays, toutes les sortes de climats.
Ah oui, tout à fait. J'aurais pas pu d'ailleurs écrire ce texte si je n'avais pas vécu moi-même dans la zone tropicale pendant un certain temps, un certain nombre d'années.
Dans quel pays ?
Essentiellement pendant 7 ans à Nouméa. Donc en Nouvelle-Calédonie, ensuite 4 ans au Vietnam, et puis actuellement je suis reparti au Vietnam. Mais c'est cette expérience de Nouméa essentiellement, où par exemple j'ai connu l'arrivée d'un cyclone sur notre maison, le cyclone Erika, et qui est arrivé et qui a emporté le toit de notre maison. Et alors du coup, j'ai pu parler, enfin je me suis senti prêt à écrire quelques phrases autour du cyclone de connaître aussi le sentiment d'exil parfois.
Oui, alors parce que vous montrez bien l'attrait que peuvent avoir ces pays, mais vous montrez aussi que la vie est souvent difficile. Alors, on est en AOF et AEF. Ça m'a frappé ça parce que j'avais une collection de timbres. J'ai un peu. Il y a AOF et AEF. Vous parlez de... Il y a le climat qui n'est pas rien quand même. Il faut le supporter. Il n'y avait pas la clim. Hein. Il y a l'isolement, le ravitaillement, pas toujours facile dans les petites villes. Les cyclones, vous faites un compte-rendu des cyclones assez forts, les caïmans, le paludisme, bon, il y a des soucis et des drames. Et comme vous dites, c'est à ce moment-là, évidemment, qu'on doit se sentir très loin de la France. Et on se dit aussi qu'il fallait une grande forme de courage.
Oui, surtout qu'à l'époque, les gens qui partaient, les petits fonctionnaires, partaient pour plusieurs années, pour 4 ans minimum, avant de pouvoir revenir en France. C'était quand même une expédition. Maintenant, c'est très facile pour nous de faire un aller-retour. Mais j'ai essayé de me projeter comme ça sur la longueur, de me dire comment ça pouvait bien se passer pour une famille qui était partie pour 4 ans et qui...
Avec les enfants, oui.
Voilà, avec les enfants.
Et quand même, et des maladies qu'on ne connaissait pas bien, qu'on ne soignait pas bien. Vous montrez aussi, et c'est assez amusant, La vie qui est parfois un peu factice, des colonies où les gens viennent dans des conditions autres que celles qu'ils auraient en France. Ça aussi, on le connaît. Je l'ai vérifié moi-même. Ils se sentent un peu, comment dirais-je, au-dessus du panier, je ne sais pas. Bon, il y a là, par exemple, la soirée en l'honneur du film Mogambo, qui est symptomatique.
Mmh, tout à fait. En fait, oui, les Français qui se retrouvent comme ça expatriés ont parfois un peu la nostalgie et essayent de la France qu'ils avaient connue dans leur jeunesse, et alors reconstituent des moments tout à fait hors du temps. Par exemple, à Nouméa, pour citer quelque chose qui n'est pas dans le livre, mais à Nouméa, ça m'avait frappé. Vous savez, l'hiver là-bas, il fait 15-17 degrés, il fait pas si froid que ça, mais un petit peu sur les hauteurs, il y a une auberge savoyarde, et dès que la température chute à 15 degrés, alors les gens montent à l'auberge savoyarde, voilà, avec une cheminée pour manger la fondue. C'est fait, et en fait, on retrouve ça, j'ai retrouvé ça, la même, tout à fait une chose équivalente à Dalat au Vietnam, en fait, dans l'ancienne Indochine, où Paul Doumer et Alexandre Yersin avaient fondé un village un peu sur les hauteurs, où on pouvait faire pousser des salades vertes. Et alors, dans ces villes-là, il y a un kiosque à musique, on trouve un hôtel de la marine, une avenue Joffre, une avenue Surcouf, voilà. C'est et Paul Constant, par exemple, dans Ourégano, raconte aussi des épisodes comme ça, les trois familles qui sont perdues au milieu de l'Afrique, de la brousse africaine.
Oui, oui. Elle accompagnait son père qui était virologue et qui était médecin, voilà. Chercheur.
Et alors elle raconte cette soirée formidable où une des trois femmes des trois couples là dit: ce soir on va se déguiser, moi je me mets en alsacienne et l'autre se met en dauphinoise, etc. Voilà, pour...
Alors, cependant, il n'y a aucun jugement, vous ne condamnez pas, vous montrez les choses. Il n'y a pas de jugement du tout de valeur sur les gens.
Oui, ce n'est pas mon rôle. Oui. C'est le lecteur fait ce qu'il veut.
Oui, oui. Non, mais il n'y a pas de ton moqueur, il n'y a pas du tout. Vous n'avez pas peur, si vous voulez, moi, 650 pages, je me suis dit, mais quand on m'a donné ce livre, je me suis dit, oh là là. En fait, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'il n'y a pas d'ennui, on peut laisser le livre, le reprendre, comme si on allait rendre visite à des cousins. C'est l'impression que j'ai eue, je retrouvais. Bon, alors, les liens entre les hommes et l'histoire, ça, vous l'avez bien montré également. Comment ils ont vécu les guerres. Là aussi, ça a été raconté par vos grands-parents ?
Oui, les guerres. Alors, la Première Guerre mondiale avait beaucoup marqué ma grand-mère, Simone, puisqu'elle était en fait dans un village à 10 km de la frontière allemande, et son village Badonvillé a été massacré par les Allemands 10 jours après le début du conflit. Et donc ça a été, elle a même vu sa mère au poteau d'exécution, et donc ça a été un traumatisme pour elle. On dira plus tard que, enfin, elle m'a dit plus tard que elle n'avait pas grandi, elle avait fait un blocage étant petite sur sur les traumatismes de la guerre qu'elle avait connue quand elle avait 3-4 ans. Hein. Mais ça l'avait profondément marqué, et elle continuait jusqu'à 80-85 ans d'avoir des cauchemars de la Première Guerre mondiale. On ne sait jamais ce qui marque les enfants pour toujours, mais là, les guerres, c'est...
Vous voyez, tout à l'heure, j'ai oublié de parler de quelque chose. On parlait des voyages, des départs. Vous parlez de nomadisme qui a toujours existé et qui est relancé par l'économie et marché. Est-ce que vous en voyez les dangers ? C'est en dehors du livre, ça ?
Sur le nomadisme, actuellement, on est en pleine épidémie, donc on va limiter un petit peu les voyages pendant quelques temps.
Oui.
Mais sinon, non, le nomadisme, je pense que ça a été une, enfin, je sais pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. En tout cas, ça a été quand même positif au niveau de la circulation des cultures, de l'ouverture des gens sur d'autres manières de voir le monde, d'autres manières
d'esprit.
Voilà, c'est une ouverture d'esprit. Oui. Après, voilà.
Alors, il y a également, pendant la guerre, en Afrique du Nord, et j'étais intriguée parce que, alors je ne sais plus qui c'est, Pierre, je crois, qui admire beaucoup le maréchal Leclerc, qui est pas mal maréchal à l'école, à l'époque, il est général, mais qui déteste Delattre de Tassigny.
Oui.
Alors là, j'essayais de me remémorer et il me semble que dans ma famille, Delattre de Tassigny n'était pas du tout décrié. Alors, je ne sais pas sur quoi il s'était basé. Peut-être qu'il y avait un fait, hein, j'en sais rien.
Oui, moi, je n'ai pas connu ni Leclerc ni Delattre, donc je ne prends pas position. Simplement, Pierre, c'est donc le frère de Lucien. Le frère de René aussi, qu'on a entendu tout à l'heure. Et c'est quelqu'un qui avait un caractère très tranché. Et donc, qui était très péremptoire, très affirmatif. Voilà. Alors, que ce qu'il avance soit vrai ou faux, m'importe peu. Ce qui m'intéresse, c'est un petit peu sa personnalité à lui.
Oui.
Parce que c'est quelqu'un voilà, qui m'a intrigué, quelqu'un qui à la fin de sa vie était un petit peu acariâtre, était
aigri.
Et j'ai essayé de comprendre
pourquoi. Parce que c'est
pourquoi.
Pas le style de la famille. Hein.
Non, mais lui c'est le personnage le plus aigri et. Voilà, j'ai pas vraiment de réponse, mais en dressant son portrait, chacun se fera son idée.
Oui, voilà. Mais ça m'a fait sourire parce que je me suis dit, ah tiens, bon, alors du coup, j'ai pas eu trop le temps, mais je suis allée voir sur Delattre de Tassigny s'il avait commis quelque chose. Je ne suis pas très forte en histoire, alors je n'en sais rien, mais je creuserai. En tout cas, il y a également, alors, au beau. À un endroit, je ne sais plus à quel endroit, aux surprises, il y a un dessin de Sempé. Vous savez que c'est mon dessinateur préféré.
Ah, alors, un point commun supplémentaire.
Alors, oui, avec la montre déjà. Alors, mais il a toute sa place dans cet ouvrage, vraiment.
Alors pour moi, Sempé, c'est vraiment aussi le plus grand dessinateur. Enfin, moi, j'adore sa plume depuis
toujours. Un philosophe, même.
Ah oui, tout à fait. Non, mais tout à fait. C'est, ouais. Et c'est un plaisir de se plonger dans un ouvrage de Sempé. Quand j'étais jeune, je lisais Le Petit Nicolas, évidemment. Et puis, y a une poésie, il y a cette nostalgie d'une époque qui est en train de disparaître, mais doucement. On sent dans les années 50, 60, les dessins de Sempé qui montrent l'époque en train de changer. On voit des gratte-ciel apparaître alors qu'il existe encore des jardinets
avec des petites
maisons et un monsieur en chapeau qui est sur son vélo qui est tout à fait d'une autre époque, mais voilà.
Avec un regard toujours bienveillant.
Ah, toujours bienveillant et poétique. Hein,
c'est absolument.
La poésie. Et donc,
oui, les petites choses de la vie.
Voilà.
Ce que vous avez fait, finalement,
voilà.
Ce que vous avez fait en dehors des pages d'histoire, mais dans le fond, vous avez regardé la vie des gens avec bienveillance.
J'ai essayé. Donc, pour terminer sur Sempé, en 2014, j'ai été le voir au Salon du Livre à Paris, et je lui ai demandé un dessin pour Simone et Lucien. Et voilà, j'ai eu cette chance incroyable.
Oui, vraiment. Oui. Voilà. Et puis, moi, j'aimerais bien lire. Vous avez cité un extrait de Albert Camus, que j'aime aussi beaucoup, dans Combat. Quelque chose en nous a été détruit par le spectacle des années que nous venons de passer. C'était après la guerre. Et ce quelque chose est cette éternelle confiance de l'homme qui lui a toujours fait croire qu'on pouvait tirer de notre homme des réactions humaines en lui parlant le langage de l'humanité. Nous avons vu mentir, avilir, tuer, déporter, torturer, et à chaque fois, il n'était pas possible de persuader ceux qu'ils faisaient de ne pas le faire, parce qu'ils étaient sûrs d'eux, et parce qu'on ne persuade pas une abstraction, c'est-à-dire le représentant d'une idéologie. Nous étouffons parmi les gens qui croient avoir absolument raison, que ce soit dans leurs machines ou dans leurs idées. Et pour tous ceux qui ne peuvent vivre que dans le dialogue et dans l'amitié des hommes, ce silence est la fin du monde. Je trouve que vous avez bien fait de citer ce texte.
Ah, ce texte, oui, m'a beaucoup parlé. Et c'est une période vraiment où je pense que les consciences ont été chavirées, complètement bouleversées par Hiroshima et par tout ce qu'on a appris par la suite sur l'Holocauste. Mais je pense pas que les foules étaient vraiment, enfin que les gens étaient informés complètement de la Shoah tout de suite. Il y avait
non.
qu'une minorité qui était au courant. Par contre, quand même, la bombe nucléaire, là, ça a marqué tout le monde. Et puis, la barbarie, donc...
Oui, mais vous ne trouvez pas que ce texte est absolument d'actualité?
Ah, oui.
Hélas.
Mmh.
Voilà. Enfin, donc, il faut le faire lire. Il faut faire lire votre ouvrage en rappelant que c'est un ouvrage long, mais qui se lit très, très facilement, que l'on peut garder, comme ça, j'ai dit tout à l'heure, retrouver les cousins. Et on y apprend énormément de choses aussi, où ça nous rafraîchit la mémoire, parce qu'en définitive, bon, il y a beaucoup de choses qu'on a oubliées. En tout cas, un grand merci, Sylvain Houillon. Je rappelle à nos auditeurs qu'il s'agit du livre intitulé « Les jours ». C'est un roman. Un roman, mais aussi avec beaucoup de choses précises. Il y a des choses qui partent du cœur, hein, probablement, de l'imagination, mais aussi il y a des faits. C'est édité chez Gallimard. Merci encore.
Merci beaucoup.